Éducation et voyage.
Être et savoir. Louise Touret.
Aucun apprentissage n'évite le voyage. Sous la conduite d'un guide, l'éducation pousse à l'extérieur. Pars, sors. Sors du ventre de ta mère, du berceau, de l'ombre portée par la maison du père et des paysages juvéniles. Le voyage des enfants, voilà le sens nu du mot grec « pédagogie ». Apprendre lance l'errance. Partir, sortir, se laisser un jour séduire. Devenir plusieurs, braver l'extérieur, bifurquer ailleurs. Voici les trois premières étrangetés, les trois variétés d'altérité, les trois premières façons de s'exposer, car il n'y a pas d'apprentissage sans exposition, souvent dangereuse, à l'autre.
Et vous venez d'entendre une de nos invitées, l'écrivaine Véronique Ovaldé, nous lire magnifiquement un extrait du Tiers instruit de Michel Serres, une manière pour nous de rendre hommage aux philosophes disparus et un texte parfait pour introduire cette émission sur l'éducation et le voyage. Alors oui, les voyages sont censés former la jeunesse. Cette question fut portée par de nombreux penseurs de l'éducation. On pense en premier lieu à Rousseau et à l'Émile, où le voyage est censé éduquer et apprendre les mœurs des autres peuples. Mais si le voyage est un apprentissage, peut-on apprendre à bien voyager et tirer profit de cette grande expérience, du risque, de l'ailleurs, du devenir étranger et enfin du retour, heureux qui comme Ulysse, qui sait ? Et les voyages sont aussi comme les histoires d'amour, puisque nous rêvons à plus de voyages qu'on ne peut en vivre. Nous évoquerons donc les récits qu'on se raconte à ce sujet, avec bien sûr la place importante de la littérature qui a toujours peut-être raconté nos voyages, nos errances, nos aventures, nos odyssées, avec l'écrivaine Véronique Ovaldé qui engage les enfants à savoir être imprudents. Nous avons convié un philosophe, Thibaut Vian, c'est lui qui m'a donné l'idée de citer Michel Serres, Thibaut Vian qui vient de publier L'éducation par le voyage, et puis une géographe, Emmanuelle Pével, qui a dirigé un ouvrage sur les pratiques touristiques et les circulations des savoirs autour du voyage. Et puis la leçon de choses en fin d'émission, une autre histoire de voyage, ce sera avec Yvan Jablonka. Mon bonheur en camping-car était forcément ambivalent. L'essayiste et historien avait publié en 2018 en camping-car un ouvrage dans lequel il racontait ses vacances d'enfance. Il y revient avec Sophie Bobert, une leçon de choses à laquelle nos invités réagiront.
Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, voyage.
Bonjour Véronique Ovaldé.
Bonjour.
Merci pour cette belle lecture. Vous êtes autrice de romans et d'albums jeunesse, notamment de Soyez imprudents les enfants. C'est le livre qui a donné l'idée à Avril Ventura de vous proposer de venir dans cette émission. Vous avez publié aussi Paloma et le vaste monde chez Actes Sud Junior. Ouais. C'est un livre qui avait eu la pépite du festival de livres jeunesse du département de Seine-Saint-Denis. Et puis, Personne n'a peur des gens qui sourient, votre dernier livre, là aussi il est question d'un voyage, on y reviendra. Thibaut Vian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes voyageur et vous dites en grande itinérance, vous nous raconterez ça, docteur en sciences de l'éducation et professeur de philosophie. Vous avez publié L'éducation par le voyage chez L'Harmattan, un livre passionnant, plein de fantaisie, j'ai trouvé, qui mêle références philosophiques et littéraires sur lesquelles nous nous appuierons également. Emmanuelle Pével, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en géographie à l'université de Brest. Vous avez dirigé un ouvrage collectif assez passionnant, L'éducation au voyage comme une invitation au voyage, pratiques touristiques et circulation des savoirs aux presses universitaires de Rennes. C'est un livre collectif avec de nombreux articles qui abordent les questions du tourisme, du voyage scolaire, on ne va pas parler du voyage scolaire dans cette émission, puis du voyage en famille et de toutes les questions qui peuvent se poser, en particulier les questions environnementales. Ça m'a beaucoup intéressée. On va quand même démarrer avec cette question d'étymologie qui est assez passionnante. Thibaut Vian, pédagogie, éduquer. Éduquer, c'est conduire hors d'eux. Quand on parle d'éducation, on parle d'une forme de déplacement. C'est cela qui vous a fait faire le lien avec le voyage.
Oui, éducation vient de educere, educare en latin, qui veut dire sortir d'eux. Donc ça implique plusieurs aspects. D'abord sortir du ventre de sa mère, d'un utérus sécurisant pour aller découvrir le monde par soi-même. Et puis, ça consiste ensuite à marcher par soi-même après quelques mois, voire peut-être un an du petit bébé. Et au fur et à mesure, donc c'est un processus qui consiste à aller toujours outre et plus loin et qui ne s'arrête jamais puisqu'il y a une éducation tout au long de la vie. Donc, il y a une dimension inhérente à l'éducation qui relève du voyage. Le voyage et l'éducation sont comme frères et sœurs.
Alors, ça a été formalisé, cette idée de voyage dans l'éducation a été formalisée depuis longtemps. C'est une vieille idée, une tradition qui remonte au Moyen-Âge. Si on pense aux échanges universitaires, on va peut-être pas remonter jusque-là. Mais évidemment, on sait que tourisme, ça vient du Grand Tour, et c'était un voyage pour les adultes, mais aussi pour les jeunes gens, un voyage éducatif. Emmanuel Pével.
Oui, tourisme prend sa racine dans le Grand Tour qu'effectuait une classe sociale bien particulière, les élites aristocratiques et la grande bourgeoisie européenne à partir du XVIe siècle. Des jeunes élites aristocratiques masculines principalement, peu de femmes l'ont fait. Et à quoi servait le Grand Tour? À apprendre, à hériter. Il avait une fonction extrêmement utilitariste et le but était de se former à son futur métier en apprenant des arts militaires, en apprenant plusieurs langues étrangères, en se socialisant à des arts mondains comme les bals par exemple. La dimension éducative du voyage, elle est inhérente au voyage dès le début. Par contre, elle a été le fait d'une classe sociale bien particulière pendant longtemps.
Alors le tourisme, évidemment, s'est démocratisé, même si tout le monde n'a pas la chance peut-être de partir en vacances. Et aujourd'hui, le tourisme est aussi un mot qui peut être légèrement péjoratif, parce que le tourisme n'est pas forcément tourné vers le savoir. On peut même penser qu'il est plutôt tourné vers l'ignorance ou une forme d'évitement. Et puis, touriste, c'est une insulte en classe. Tu viens en touriste, c'est quelque chose qu'on a peut-être entendu dans sa scolarité, pas forcément à son endroit, mais peut-être. Ce mot touriste, il est rejeté par les voyageurs, Thibaut Vian.
Oui, le tourisme, il y a une forme d'attitude dilettante dans le tourisme. Alors le tourisme, c'est au minimum deux choses aujourd'hui. C'est ce qui va permettre à des novices voyageurs de pouvoir néanmoins faire le déplacement et d'aller dans des endroits relativement sécurisants, touristiques comme on dit. Mais il me semble que le voyage authentique va au-delà du simple tourisme. Parce que le voyage authentique, il va découvrir des lieux qui parfois sont inexplorés ou qui sont peu explorés, à la rencontre de certaines personnes authentiques. Le tourisme, au contraire, va changer la relation entre les autochtones et les voyageurs. Il y a une dimension économique, marchande aussi, qui va s'introduire dans la relation touristique. Alors que le voyageur va être plutôt celui qui va être invité chez les autres, qui va donner de soi-même, qui va aller à la rencontre de personnes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer.
Alors, on va revenir sur cette dimension, mais sur la question du tourisme, dans votre livre, Emmanuel Pével, vous le défendez quand même un peu, ce tourisme, parce que c'est le voyage le plus accessible, et puis qu'on peut en faire quelque chose.
Oui, cette distinction voyage-tourisme, elle n'a pas tellement de fondement scientifique. En fait, elle relève de jugements de valeur. Ça a été assez bien étudié en sociologie, notamment. Elle relève d'une démocratisation assez mal acceptée de cette mobilité par les élites. Et le voyageur lui-même était déjà haï. Je rappelle cette fantastique phrase de Lévi-Strauss qui disait lui-même qu'il haïssait les voyageurs en tant qu'anthropologue.
Et les explorateurs.
Donc il y a bien l'idée qu'on est plutôt dans des catégories de pensée jugeantes plutôt que scientifiques. Le touriste, il désigne effectivement une classe sociale plus populaire. Il appelle des figures telles que les Bidochons, Patrick Chirac dans Camping. Ça renvoie à tous ces clichés du fait de bronzer idiot. Dans les faits, quand on dépassionne le débat et qu'on analyse de manière plus objective les pratiques, les discours, les imaginaires, on se rend compte que les choses sont plus complexes et moins binaires que ces oppositions classistes, finalement.
Et en quoi est-ce éducatif ?
En quoi le tourisme est éducatif ? Alors, de multiples manières, en fait, depuis la fin des années 70, en fait, un certain nombre de travaux s'y sont intéressés. Il est éducatif parce qu'il apprend à gérer une foule de situations, à résoudre des problèmes, à négocier. On apprend à se repérer, à s'orienter, à faire équipe. On apprend à se disputer aussi, il y a des conflits. Donc ça, c'est par exemple des travaux qui ont porté sur les backpackers.
Donc, ceux qui voyagent en sac à dos, qui se pensent voyageurs, mais sont peut-être des touristes. On est finalement toujours le touriste de quelqu'un d'autre.
Exactement. Donc, on apprend des savoir-être, j'allais dire, des savoirs relationnels. On apprend aussi des savoirs plus disciplinaires, aller au musée, visiter un château. Il faut le replacer dans des situations d'apprentissage extrêmement importantes si on replace l'éducation tout au long de sa vie, en fait. Sortie de l'école, et l'école, finalement, ça représente peu d'années dans nos vies. Une des manières de continuer à apprendre des choses, c'est précisément en faisant du tourisme. Voilà. L'histoire de l'art, l'histoire de notre pays, la géographie, la biologie, quand on fait de l'écotourisme, etc.
Et ce, à tous les âges. Dans le déplacement, il y a la question de l'imprévisible. Il y a toujours une forme de risque. C'est pour ça que certaines personnes sont casanières. Véronique Ovaldé, cette question du risque et de l'imprévisibilité, elle est incroyablement romanesque. Qu'on voyage vraiment ou qu'on reste chez soi?
Alors, en fait, ce qui est très particulier, c'est que même si j'ai écrit un roman qui s'appelle « Soyez imprudents les enfants », qui reprend en fait une phrase de Giono dans Le Hussard sur le toit, quand la mère du hussard lui écrit une lettre depuis l'Italie, je crois, et qu'elle lui dit « Et surtout, mon petit, sois le plus imprudent possible, hein, parce que c'est le seul moyen d'avoir du plaisir à vivre dans ce monde de manufacture. » Moi, je me souviens, quand j'ai lu ça, je me suis dit « Mais c'est complètement irresponsable, en fait, de dire ça à son enfant. » Et c'est en grandissant, en vieillissant, en étant moi-même mère, j'ai compris qu'en fait, il fallait appeler à l'imprudence. Évidemment, il fallait appeler l'imprudence ses enfants. Mais pour en revenir à ma propre expérience, moi, j'ai tendance à être, comme dit Enrique Velamatas, je suis une espèce de voyageuse casanière. J'ai beaucoup, beaucoup voyagé, mais je crois que je fais partie des gens qui aiment se souvenir des voyages plus encore que d'être dans le déplacement même. Mmh. Et dans la relation du voyage, évidemment.
Mais il y a quelque chose de très allégorique de l'éducation. Quand on dit à son enfant « sois imprudent », c'est comme quand on le laisse partir en vacances tout seul. Et finalement, quand on le laisse partir pour la première fois à l'école tout seul, c'est de lâcher la personne à laquelle on tient peut-être le plus dans le monde inconnu et finalement... quelle que soit la destination.
Mais oui, c'est ça en fait le problème que ça pose. Évidemment, c'est la tentation qu'on a de garder l'enfant auprès de soi, de pas le faire sortir surtout de cet utérus tellement confortable. Et puis, alors ça concerne aussi les hommes d'ailleurs, parce que les hommes finalement ont un utérus symbolique, on va dire. Et la nécessité, on a une tentation de les garder, et puis la nécessité évidemment qu'ils se confrontent au monde qui n'est pas un champ de coquelicots, ça se saurait. Donc il y a cette angoisse inhérente au fait d'être un adulte, un parent responsable d'une petite personne qui doit nécessairement vraiment faire éprouver, en fait, on va dire, éprouver le monde. Et c'est pour ça qu'en fait, quand j'avais écrit ce livre, Soyez imprudents les enfants, ça parlait évidemment beaucoup de ça, de cet appel de l'aventure. Et puis, mais c'est quelque chose qui est très important dans chacun de mes livres, parce que dans le dernier, dans Personne n'a peur des gens qui sourient, finalement, c'est une mère louve, en fait, qui essaye de garder ses enfants, qui essaye de les protéger et donc de les exclure du monde.
On va parler de la dimension familiale et des rapports familiaux dans ces voyages qu'on peut faire ensemble parfois. Je ne résiste pas au plaisir de lire, en fait c'est Linky Pete, hein, de Personne n'a peur des gens qui sourient. Gloria était prête depuis tellement longtemps que lorsqu'elle a pris sa décision, elle a eu besoin d'à peine une heure pour tout emporter, attraper les passeports, les carnets de santé, le Beretta de son grand amour, choisir deux livres pour Stella dans les piles des livres à lire, deux peluches de Loulou ainsi que sa peau de mouton préférée, retrouver le mastermind au milieu du foutoir de la chambre de Stella, emballer une paire de chaussures pour chacune d'entre elles, brosse à dents, doliprane, thermomètre, peigne à poux et habits chauds. Mis à part le Beretta, c'est un peu comme ça qu'on part en week-end ou en courte vacances. Cette dimension familiale, elle est très paradoxale, parce que quand on est en voyage en famille, on est à la fois ouvert vers l'extérieur et très recroquevillé sur le groupe familial Thibaut Vian.
Oui, il y a des sites internet, beaucoup, The Guardian, Vagabond Family, qui relatent des histoires de familles en voyage.
Et des comptes Instagram avec des photos comme ça, magnifiques.
Il y a même des communautés de familles qui se retrouvent parfois dans des lieux tels l'Alaska ou l'Inde. Mais oui, il y a deux choses sur l'éducation par le voyage en famille. Il y a d'abord un entre-soi qui est clair, un cocon familial. Alors ça peut resserrer les liens. Il y a des souvenirs de famille après quand on regarde les photos a posteriori. Mais il y a des témoignages d'enfants sur lesquels j'ai travaillé, dont celui de Lara sur le site The Guardian, et qui dit « I am loving our intense time together, but I am also missing my personal freedom. Ma liberté personnelle me manque aussi », si je traduis la fin de la citation en français. Parce que précisément, et c'est là que la dimension éducative apparaît, il me semble qu'il n'y a éducation au voyage que s'il y a des prises d'initiative de la part des enfants, des risques. Or, si on reste dans une dimension sociologique et familiale, il me semble que les enfants sont toujours guidés, c'est-à-dire que c'est un voyage qui ne leur appartient pas véritablement, même s'ils peuvent prendre part aux décisions. Mais il y a, il me semble, une limitation du caractère risqué du voyage et de la prise d'initiative qu'elle sous-tend. Donc, il me semble que c'est un début, c'est une propédeutique au voyage véritable, mais il me semble qu'il faut aller après au-delà du simple voyage en famille.
Emmanuel Bevel, sur cette dimension familiale où les parents enseignent aussi leur manière de voyager, de voir le monde, aussi en choisissant un style de vacances, on l'entendra également tout à l'heure avec Yvan Jablonka.
Oui, tout à fait. La famille, c'est le premier moment d'apprentissage. Il est extrêmement discriminant hein, en termes d'inégalité sociale. Hein. On voit bien que des enfants qui sont jamais partis en vacances auront peu de chances ensuite d'y partir, pas seulement pour des raisons financières, hein, mais il y a vraiment une éducation qui se fait à l'altérité très tôt. Le tourisme, c'est aussi un moyen de rencontrer d'autres entre-soi sociaux. Voilà, il n'y a qu'à penser à la géographie des stations balnéaires. Hein. Il y a des stations balnéaires plus populaires dans le Languedoc, beaucoup plus huppées en Normandie, par exemple.
À propos des catégories sociales, il y a aussi ces enfants qui ne partent pas en vacances. Mmh. Et vous le savez sûrement, c'est un reportage qu'on peut voir à la télévision pratiquement tous les mois d'août. C'est le Secours populaire qui emmène des enfants qui n'ont parfois, tout simplement, jamais vu la mer.
Je savais pas que la plage elle avait plein de vagues, mais bon, quand j'ai vu, j'étais trop contente. C'est la première fois, mais je veux aller tous les jours. Et si je dis tous les jours, c'est vraiment tous les jours.
Pour moi, aujourd'hui c'est un jour spécial, je sais pas, j'aime bien quand on est à la mer.
Oui, c'est de l'engagement, c'est se sentir un petit peu utile pour quand même une catégorie de population qui sont, je trouve, de plus en plus maintenant un peu oubliées. C'est juste que, si on prend un petit peu de temps pour ces personnes, ma foi, qui ne vont pas en vacances 3 semaines ou 4 semaines par an, etc., c'est aussi de se dire, je mets un peu de temps avec eux. Quelque part, on participe un tout petit peu à... leur offrir un petit peu de bon temps à un moment donné.
C'est une journée qu'ils attendent un peu toute l'année et ça leur permet, il y en a pour certains, c'est la première fois qu'ils se baignent à la plage de leur vie.
Ici, c'est un endroit paradisiaque. Les gens, ils sont heureux. Moi, je suis heureuse, tout le monde est heureux. On peut se baigner, la mer, elle est belle.
Très bien.
On gagne des jeux, ils sont très gentils, les animateurs. Et en plus, c'est la première fois qu'on fait des grandes sorties comme ça.
Et ces enfants nous restitue tout le charme et toute l'intensité des premières fois. Le voyage, c'est aussi ça, ce sont des premières fois.
Les entendre dire que c'est un endroit paradisiaque et sur la plage, il y a tellement de vagues, c'est merveilleux. Et parce qu'à chaque fois, c'est une première fois. Et pour eux, ça l'est, et ça l'est de façon très spectaculaire, parce que finalement, ces enfants, on oublie parfois, enfin, un peu trop souvent, c'est bien d'ailleurs que chaque mois d'août, on nous rappelle que le Secours populaire emmène les enfants à la mer, parce que parfois, on oublie quand même que la génération de nos enfants, beaucoup d'entre eux, en fait, ne vont pas. Je crois que l'autre fois, je regardais, il y a un enfant sur trois qui part pas en vacances, en fait, en France. Hein. Donc, c'est énorme, en fait. Et alors que les générations précédentes, moi, je me souviens, ma mère, elle a vu la mer. Ma mère, elle devait avoir 25 ans. Donc c'était quelque chose qui se faisait, en fait, qui était comme ça. Si vous habitiez pas, si vous n'étiez pas né près d'un littoral, eh ben de toute façon vous voyez pas de la mer. Mais c'était plus logique, disons le siècle dernier. Alors que maintenant ça nous paraît quand même un peu fou, sachant qu'en effet il y a une démocratisation du voyage, du tourisme, comme on le disait tout à l'heure, où on voit des hordes, comme on dit toujours, des hordes de touristes qui débarquent sur les plages. Donc en fait c'est toujours très bouleversant de se dire non, il y a quand même un enfant sur trois, en fait, qui n'y va pas.
Alors, faut-il parcourir le monde pour voyager, Véronique Ovalde, ce voyage, finalement, puisque tout le monde ne peut pas se l'offrir, et de toute façon, à moins de vivre la vie de Thibaut Vian, qui est un éternel voyageur, le vivre tout au long de sa vie, on va le rêver. Alors, j'ai évoqué l'Odyssée, la littérature occidentale, commence avec un récit de voyage et c'est toujours très présent chez les enfants d'aujourd'hui. Ça allait par exemple dans les mangas.
Au fin fond de la montagne, à des kilomètres et des kilomètres de la ville, vit un jeune garçon seul, isolé, avec la nature pour seule compagne. Le voyage de nos deux amis ne faisait que commencer. Ils ne se doutaient pas des aventures fabuleuses qui les attendaient.
Ces aventures, c'est Dragon Ball et ce personnage, c'est Sangoku, un personnage qui a marqué des générations de lecteurs de manga et de téléspectateurs de dessins animés. Vous en faites peut-être partie. Il y a aussi Pokémon, c'est le personnage de Sacha et ça commence pareil. Ça commence par un voyage, donc de la culture antique à la culture populaire. On est dans ce récit de voyage qui nous permet de voyager par procuration. Véronique Ovalde.
Oui, c'est très important ça, le voyage par procuration. Et ça, alors justement, la littérature nous aide énormément. Enfin, nous aide, c'est un support absolu. Je pensais là, en pensant à cette émission-là, je me souvenais d'un texte que j'aime beaucoup de Pierre Bayard qui s'appelle, Comment parler des lieux où...
Alors il y a les livres qu'on n'a pas lus,
mais là où les lieux on n'a pas été. Et donc il fait une allusion, parce que ce qui est intéressant dans la littérature, c'est que vous n'êtes pas obligé de voyager pour relater vos voyages. Vous pouvez voyager tout le temps sans avoir jamais bougé de chez vous. Enfin, on parle toujours de Kant, évidemment, qui n'a jamais bougé de l'endroit où il était. Mais je me souviens d'une anecdote qu'il y avait dans le livre de Bayard sur Édouard Glissant, qui voulait écrire un livre très minutieux sur l'île de Pâques, mais pour des raisons de santé, il ne pouvait pas y aller. Donc, il a envoyé sa femme, Sylvie Jama, qui est allée à l'île de Pâques et qui lui a donc raconté ce qui se passait là. Et il a écrit un voyage à l'île de Pâques. Et il y a aussi quelque chose qui m'amuse beaucoup, c'est que maintenant, il y a une forme de valorisation du voyage. On s'en rend compte, par exemple, quand les gens disent qu'est-ce que tu fais comme travail ? Oh, ben, moi, je voyage beaucoup. C'est comme si c'était le nec plus ultra de je voyage beaucoup. Alors que on sait très bien que les voyages qui sont liés à nos activités professionnelles ne sont pas complètement enrichissants, on va dire. Hein. Et donc, c'est assez étonnant, cette espèce de valorisation encore du voyage, sachant que pendant longtemps, c'était quand même un vrai problème en littérature, le voyage. Il fallait surtout pas voyager parce que ça empêchait. Et donc, il y a...
Ça empêchait d'eux.
Alors, ça empêchait en fait justement cette espèce de travail littéraire, imaginaire, cette espèce de pulsation en fait de ce qui allait pouvoir devenir un texte après de qualité. Il fallait pas que ce soit documentaire. L'idée c'était quand même si vous étiez documentaire, enfin ça n'avait aucun intérêt, aucune valeur. Et donc il y a Villamatas justement reprend cette histoire que j'aime beaucoup de entre Gide et Mallarmé. Je sais pas si vous connaissez cette anecdote. C'est parce que Gide admirait énormément Mallarmé et en 1893 il avait fait un petit tiré à part qui s'appelait Voyage au Spitzberg et il voit voir son protecteur admiré qui est Mallarmé et il lui donne son tiré à part. L'autre est un peu désarçonné et puis 2-3 jours après ils se recroisent tous les deux dans la rue et il y a Gide qui lui dit oh, vous m'avez fait peur, je craignais que vous ne soyez allé là-bas pour de vrai. Et donc, pour moi, j'aime bien cette anecdote-là parce que c'était vraiment très problématique. Alors que maintenant, il y a quelque chose, en fait... Alors maintenant, ça nous semble un peu... je ne sais pas comment dire. Nous, lecteurs, écrivains du 21e siècle, finalement, la part entre la part du réel dans la fiction, dans tout ça, c'est beaucoup... Ça, c'est bien, bien mélangé. Mais et c'est beaucoup moins, disons, hermétique, en fait. C'est plus poreux, on va dire. Mais j'aime bien cette idée qu'en fait, c'était pas... voyager, c'était quand même très problématique parce que ça vous empêchait d'écrire, d'inventer. Et d'inventer, puisque finalement, c'était ça la littérature, c'était l'invention.
Et aujourd'hui, c'est une expérience extrêmement valorisée, y compris sur le curriculum vitae des jeunes qui vont pouvoir dire, par exemple, pour rentrer dans une grande école, voilà, j'ai fait ça, 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 j'ai fait une année d'études à l'étranger où j'ai voyagé. Emmanuel Pevel.
Oui, dans le livre, Alizée Delpierre analyse notamment le tourisme humanitaire, le business du tourisme humanitaire, qui consiste en fait à payer une agence pour aller repeindre un orphelinat, creuser un puits. En fait, elle explique assez bien que c'est pas l'expérience en tant que telle qui est intéressante. D'ailleurs, très souvent, les étudiants se rendent compte que ça sert pas à grand chose, leur présence, voire c'est contre-productif. Hein, dans les orphelinats, un certain nombre d'ONG alertent sur le fait que c'est même dangereux pour ces enfants qui voient un personnel constamment se renouveler. Donc ça perturbe les attachements. Mais ce qui compte, alors de manière plus ou moins cynique et de plus ou moins dite, bien sûr, ça dépend. Ce qui compte, c'est ensuite de nourrir cette fameuse catégorie autre sur le CV, qui est là pour montrer qu'on a acquis des savoirs pas seulement disciplinaires et scolaires, mais aussi ces compétences comme le fait d'être mobile, le fait d'être adaptable, le fait d'être polyglotte, qui ne sont pas sanctionnées aujourd'hui par l'école, mais qui sont extrêmement importantes dans le cadre d'un capitalisme mondialisé. Parce que quand on dit qu'on est adaptable, mobile ou polyglotte, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on sera un futur bon travailleur.
France Culture, Être et Savoir, Louise Touré.
T'as été cet été?
Moi j'étais à Tahiti.
Si t'as été à Tahiti, c'est que tu y as été à pied.
J'ai pris ma moto, je l'ai mis sur mon dos et je suis partie pour Tahiti. J'ai pris mon vélo, j'ai dit va faire chaud et je suis partie pour Tahiti.
Si t'as été à Tahiti, t'as pas pu y aller à moto. Si t'as été à Tahiti, t'as pas pu y aller à vélo.
J'ai pris mon dada, vas-y mon petit gars, et je suis parti pour Tahiti. J'ai pris mon boa, je l'ai mis sous mon bras, et je suis parti pour Tahiti.
Si t'as été à Tahiti, t'as pas pu y aller à Cerceau. Si t'as été à Tahiti, mais t'as pu y aller qu'en bateau. T'as pu y aller qu'en bateau. T'as pu y aller qu'en bateau. Qu'en bateau, qu'en bateau, qu'en bateau, qu'en bateau, qu'en bateau.
Thibaut Vian sur cette question à la fois du voyage lointain comme discriminant, comme encore aujourd'hui extraordinairement valorisé. Est-ce qu'on peut se valoriser avec des voyages plus proches de chez soi? Est-ce qu'on peut explorer, je ne sais pas si on habite en région parisienne, la forêt de Fontainebleau?
Oui, bien sûr. Alors, il y a une figure que j'aime beaucoup contemporaine, c'est Laura Decker, qui a écrit un livre qui s'appelle « One Girl, One Dream ». Et c'est une fille qui est passionnée de voile depuis l'âge de 6 ans. Et à 11 ans, elle a commencé à faire de la voile un petit peu proche de chez elle. Elle allait découvrir des îles. Elle est de Hollande. Et puis à 13 ans, elle est allée jusqu'en Angleterre. Et elle s'est fait ramener par les autorités anglaises. Ses parents sont passés devant les juges et tout et tout. Et à 14 ans, elle a décidé d'aller acheter un bateau à Saint-Martin. Donc elle a pris l'aéroport Charles de Gaulle et puis elle est allée jusqu'à l'île de Saint-Martin. Puis elle s'est fait ramener par la police. Elle était recherchée mondialement pour fugue. Donc on peut commencer justement par une forme de proximité géographique. Mais après, il y a un dépaysement qui va quand même naître d'une confrontation à l'autre. Et quand vous allez en Inde, quand vous allez en Amérique latine, quand vous allez dans certaines parties du monde, eh bien, on a cette rencontre de l'autre qui peut exister effectivement dans notre entourage, mais qui se heurte ici à une autre langue, à une autre manière de voir, l'hindouisme, le bouddhisme, les indigènes du Guatemala, par exemple. Et cette Laura Decker a fait son premier tour du monde en voile à 16 ans. Donc, c'est l'une des figures contemporaines de la voyageuse telle que je la défends. Une gambade, telle que je l'appelle dans le livre.
C'est dans le livre. Alors, tout ça pose des tas de questions. Il y a la question écologique et environnementale, puisque le transport aérien, en particulier, a un coût en CO2 extrêmement élevé. Et puis, les touristes, une fois qu'un endroit nous fait rêver, peuvent arriver en masse. Et là, ça se dégrade. Écoutez un extrait de ce reportage d'Envoyé spécial diffusé il y a 10 jours.
Voilà, Maya Bay, mes amis. Par contre, impossible de franchir cette ligne.
Et on peut se baigner, mais...
Non, pas possible de nager, vous pouvez juste prendre des photos.
Le paradis est interdit. Depuis un an déjà, les autorités thaïlandaises empêchent l'accès à Maya Bay.
Les clients ne sont pas contents de ne pas pouvoir aller à Maya. Certains sont même prêts à me payer plus cher pour y accéder quand même. Mais c'est impossible, c'est un délit. Si j'amène des touristes, je suis mort.
J'ai bien fait venir il y a 5 ans pour bien découvrir cette plage.
La partie qui est fermée, c'est 100% mort. Il n'y a plus de coraux vivants. Tout simplement. Tout est mort. C'est 100% mort.
C'est une professeure de plongée belge qui témoignait dans ce reportage d'Envoyé spécial, donc diffusé sur France 2. Maya Bay, c'est la plage qu'on voit dans le film La Plage. Vous savez, c'est ce film avec Leonardo DiCaprio, inspiré d'un livre en fait qui raconte le tourisme des backpackers, dont le rêve est de découvrir un endroit préservé, épargné. Et l'ironie du sort, c'est que aujourd'hui cette plage. On a dû la fermer parce qu'il y avait deux rangées de bateaux qui bouchaient l'horizon. Mais finalement, c'est Saint-Tropez. Quand on va à Saint-Tropez, on ne voit pas la mer du port de Saint-Tropez. Cette question environnementale, elle est aujourd'hui très clairement posée aux voyageurs. On le voit en Suède, où maintenant, prendre l'avion pourrait être l'objet d'une certaine honte sociale. Emmanuel Pevel, cette dimension écologique, vous l'abordez dans votre livre.
Oui, dans la dernière partie, on l'aborde, comment on peut sensibiliser les touristes et à l'environnement. Et on démontre aussi que l'éducation, c'est une forme, certes, d'émancipation, mais c'est aussi une façon de contraindre. C'est-à-dire que sous une cause assez consensuelle qui est la protection de l'environnement, on peut limiter l'accès à certains sites. Généralement, on le limite par l'argent. On fait payer cher en se disant que ça va limiter le nombre. Et ça pose des vraies questions sociales, parce que ça veut dire qu'on est en train de préserver des sites seulement pour les plus riches. Donc on l'aborde plutôt sous cet angle, en fait, dans la dernière partie. Maintenant, de manière générale, je vous rejoins, effectivement, hein, le tourisme est une activité polluante. Pour autant, moi, je prends vraiment beaucoup de recul par rapport à ce discours qui culpabilise les touristes. Alors, bien sûr, on est tous responsables de nos pratiques, mais c'est surtout la mise en tourisme effectuée par les acteurs qui doit être interrogée. Il y a différentes façons de mettre en tourisme un site. On peut choisir la pire façon, de manière prédatrice et donc extrêmement dégradante, comme on peut mettre en place des actions de gestion concernées, plus respectueuses de l'environnement. Donc, in fine, culpabiliser le tourisme, c'est un peu comme quand au supermarché, on vous dit qu'il faudrait éviter d'acheter des sacs plastiques. Oui, effectivement, mais en amont, il y a toute une chaîne qui est produite et qui fait que c'est pas votre sac plastique qui fait vraiment la différence. Mais enfin, on participe, on va dire, de cette chaîne. Voilà.
Pour revenir à l'éducation, peut-être que le voyage et connaître la nature pour tous les enfants qui vivent en ville, ils sont aujourd'hui plus nombreux que ceux qui vivent dans des zones rurales, vont aussi découvrir des zones plus préservées, ce que c'est qu'une forêt, tout simplement, lointaine ou toute proche.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que des institutions comme l'école ou l'État ont historiquement investi cette éducation au voyage chez les enfants. En France, on est une génération il y a plusieurs générations qui ont bénéficié de dispositifs comme les classes de neige, les classes de mer, qui sont aujourd'hui d'ailleurs en perte de vitesse à certains égards. On étudie, là, on a un petit programme de recherche en ce moment sur les classes de mer. On le voit très bien. Les classes de mer aujourd'hui, c'est pas seulement apprendre à faire de l'optimisme ou du catamaran, c'est plus globalement être éduquer, sensibiliser au milieu marin avec des éducateurs qui leur font faire des pêches à pied, qui leur font exploiter des aquariums, qui leur font ramasser des algues pour les goûter. Il y a vraiment l'idée aussi que par le tourisme, on apprend par le corps, pour de vrai. On y est là pour de vrai. Et donc, ça n'a pas la même réalité, la même importance. En classe, sur un livre, dire qu'il faut protéger la mer, c'est une chose. Aller à l'île de Bas, où j'ai vu, pour faire écho à l'extrait de tout à l'heure, un enfant dire « Mais elle est où la mer ?» Donc un éducateur en milieu marin lui expliquait bah, « il y a des marées en fait, la mer va revenir tout à l'heure. »« Ah bon, donc on est au bord de la mer, mais il n'y a pas la mer tout le temps. » L'enfant était hyper déçu. Mais c'est aussi ces apprentissages en situation, par le corps. Je le vois moi pour la première fois, je le ressens, l'iode, l'air marin, je goûte des algues. On apprend avec les cinq sens et ça c'est extrêmement important dès l'enfance.
On peut indiquer qu'il y a une grande manifestation autour de la mer XXL, c'est à Nantes, et avec beaucoup d'activités, donc de découvertes, à la fois de ce qu'on peut faire en mer, du bateau, du kayak, et puis des écosystèmes marins, une exposition sur Jules Verne. Véronique Ovaldé, je repense souvent à une phrase qu'avait prononcée une institutrice, puisqu'elle s'appelle elle-même comme ça, institutrice, Véronique Decker, qui enseigne à Bobigny, qui est directrice d'école, et qui disait que c'était difficile, quand on lisait de la poésie ou des livres, de parler du bruissement des feuillages, du bruit que fait une petite rivière.
Quand on n'a jamais entendu ça.
Exactement.
Ben oui, c'est très difficile. C'est pour ça que nécessairement, il faut qu'ils entendent, en effet, le bruissement des feuillages. Et que c'est très difficile en ville. Moi qui élève des enfants en ville, je me rends compte que c'est vraiment problématique. Par exemple, toutes ces histoires d'odeurs. C'est terrible, en fait, comme ça sent toujours la même chose, particulièrement en ce moment à Paris. Et donc, vous avez toujours une espèce d'odeur globale de gasoil. Et en fait, dès que les enfants vont près de la mer, ou vont en forêt, ils le disent, en fait, c'est ça, en fait, qu'ils sentent. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est la première chose qu'ils ressentent, c'est ça. C'est, en fait, et évidemment aussi, les oiseaux, c'est très étonnant. C'est qu'en fait, la nécessité qu'il y a, évidemment, à éprouver ça. Donc, c'est pour ça que vous disiez, il faudrait que ce soit physique, mais moi, c'est vraiment cette idée de l'épreuve, éprouver les choses. Mmh. Et alors, après, on peut être Édouard Glissant et décider d'envoyer plutôt sa femme sur l'île de Pâques parce qu'on se sent pas trop en forme et qu'on est capable, parce qu'on est Édouard Glissant, on est capable de rendre minutieusement une expérience qu'on n'a pas réellement vécue. Parce qu'on a ce talent-là, mais la première chose à faire, évidemment, quand on est enfant, surtout, c'est d'y aller, c'est d'être dans la matérialité de ce qui nous est étranger.
Alors, il y a la matérialité, et puis il y a la télévision, excusez-moi pour cette transition un petit peu brutale, mais c'est vrai que les programmes télévisés qui montrent des voyageurs, il y en a de plus en plus depuis quelques années, je pense à des programmes de télé-réalité comme Pékin Express, Koh-Lanta, là, c'est du voyage un peu extrême, et puis ce programme, Rendez-vous en terre inconnue, peut-être allez-vous reconnaître la voix, je vous le dis, d'Edouard Baird.
C'est sur les bords de cette mare asséchée que nos chemins se séparent. Dans quelques instants, nous quittons le pays d'Ogon. Amadongo, Yama et Gounod vont rentrer au village, soulagés et fiers. Ils ramènent à Amaïbé le signe tant attendu, la promesse d'une terre plus généreuse et sans doute l'espoir d'une vie moins dure.
Et je t'avais dit qu'on réussirait. J'ai même pas eu peur.
Voilà, mais c'était un moment très fort d'être là. C'est très plein, c'est très intense. On est vraiment là, on est même familier. Il y a une familiarité avec les visages, avec les lieux. On pense que c'est notre vie. Hein. Et ce qui est magnifique dans cette histoire, c'est de vivre si près humainement de gens qui, a priori, si différents. C'est ça qui est bouleversant dans cette aventure. Le reste, sont des images qui sont bien agréables à traverser. Hein. C'est agréable d'être dans l'image. Mais ce qui est formidable, c'est de s'imposer comme une règle de vivre un certain temps avec des gens qui, a priori, tout sépare de vous.
Édouard Baird, il est intéressant cet extrait parce que ce comédien est tellement ironique et plein de fantaisie. Et là, on entend une forme d'émotion et de sincérité absolue. Et pourtant, ce programme, il pose plein de questions sur comment on se met en scène devenant étranger avec une recherche du maximum d'altérité. Ça doit vous interroger, Thibaut. Vient-vous qui parler, et vous en avez parlé au début de l'émission, du voyage lointain, du voyage où on va rencontrer l'autre dans ce qu'il a de plus différent. Que pensez-vous de ce genre de mise en scène ?
Ben c'est super, je trouve. Là, on peut voyager de manière immobile devant la télévision, mais ce qui va nous manquer, c'est le rapport à l'autre, le rapport charnel à l'autre. Et il y a tout de même une difficulté, c'est que très souvent, les personnes qui viennent vers nous vont être intéressées par la figure un peu imaginaire du voyageur. C'est-à-dire, ils vont venir vers nous en se disant « Waouh, ça va être, c'est quelqu'un, c'est... » J'ai aussi rencontré des gens qui nous rejettent complètement, par exemple dans le sud du Mexique, quand vous allez dans les forêts du Chiapas. Il y a une communauté un jour qui m'a empêché l'accès parce qu'ils, je sais pas, ils avaient peur. C'est-à-dire que l'autre, c'est aussi, ça peut être aussi une forme de danger où on peut être perçu aussi comme un danger. Et il y a quelque chose d'éducatif là aussi. On n'est pas toujours accueillis les bras ouverts. Ceux qui nous accueillent les bras ouverts, par exemple dans le couchsurfing, qui est un réseau social des voyageurs pour pouvoir dormir chez l'habitant.
Dormir chez les gens, c'est aussi un programme télévisé, j'irai dormir chez
vous. Tout à fait. Mais sociologiquement, il me semble que les personnes qui participent au couchsurfing sont souvent des personnes déjà converties à l'international. Le local, il faut aller le chercher parfois assez loin dans les petits villages. Et on peut avoir soit une sorte d'admiration, alors là, viens chez moi, viens manger, tu peux rester dormir, soit au contraire une forme de peur, de timidité, voire de sentiment d'infériorité.
Et parfois. Justement, est-ce que ça flatte pas une certaine vanité occidentale? Et là, j'en prends des termes que vous utilisez dans votre livre, Thibaut Vian. Enfin, ça ressuscite quand même des figures d'explorateurs qui paraissent très anciennes. C'est l'homme blanc qui va visiter une tribu.
Oui, de Ulysse jusqu'à même Claude Lévi-Strauss. Il hait les voyages, mais parce que il pensait qu'il fallait une sorte de virginité d'esprit pour être accueilli dans une tribu et pouvoir vivre à leur manière. Alors, justement, sur cette question-là, la difficulté, c'est que la notion même de voyage est occidentale. C'est-à-dire que j'ai rencontré des gens dans les montagnes des Cuchumatanes au Guatemala. Pour eux, le voyage, ça consistait à aller vendre leurs pommes de terre dans la grande ville pour se faire de l'argent. Ou le voyage le plus loin, rêvé très souvent, puisque le voyage, ça s'imprègne du rêve, c'était d'aller aux États-Unis. Aux États-Unis pour pouvoir faire de l'argent. Mais à chaque fois, pour rapporter quelque chose pour les siens. Alors que l'occidental, il voyage pour se trouver, pour découvrir des nouveaux paysages. Mais il y a une très grande partie du monde considère que le voyage, ce n'est pas ça. Un viaje, au Guatemala, c'est un mandado. C'est aller chercher quelque chose qu'on peut rapporter pour les siens. Donc, il y a là une sorte de, presque de rapport ethnologique au voyage. Nous voyageons, mais on s'emporte soi-même, on emporte sa culture, et c'est dur de pouvoir échapper à cela.
Emmanuel Pével, quand on fait voyager nos enfants, nous, Français, si on est Français, est-ce qu'on leur apprend à devenir de petits occidentaux ?
Oui, puisqu'on transmet toujours des choses dans la famille, bien sûr. Alors, bon, occidental, c'est une catégorie que j'ai du mal à utiliser au premier degré, parce que ça renvoie à un ensemble tellement vaste et lui-même tellement fragmenté que on retombe très souvent sur des couples infernaux, là, occidentaux, orientaux. Mais c'est sûr qu'il y a, oui, des manières de voyager qui se transmettent. Et puis, il est vrai que le tourisme aujourd'hui, tel qu'il est comptabilisé par l'OMT, est d'abord une mobilité de riches chez les riches. Donc, d'une certaine façon, de pays dits occidentaux. Ça, c'est vrai. Alors, pourtant, je nuancerai quand même ce qui vient d'être dit. Le voyage existe dans des sociétés depuis longtemps. Je prendrai un terme que tout le monde connaît, le mot safari. Le mot safari vient du swahili qui veut dire voyage et il existait bien avant la colonisation britannique. Ce sont les Anglais qui ont repris ce terme pour désigner certains voyages. Au Vietnam, en Chine, le Vietnam c'est un pays que je connais un peu plus, il y avait des grandes pérégrinations qui étaient faites pour des raisons religieuses, par exemple liées au pèlerinage. Donc je suis pas sûre que le voyage soit une spécialité, une spécificité occidentale. Par contre, c'est vrai qu'il a pris une ampleur phénoménale dans les mondes occidentaux aujourd'hui, puisque c'est ces pays-là qui ont le plus d'argent pour les réaliser.
Et sur ce devenir étranger, qui est la grande expérience aussi du voyage, c'est quelque chose qu'on ne peut apprendre qu'en se déplaçant un peu plus loin, là aussi, c'est une éducation.
Oui, parce que l'altérité, en fait, dans une situation touristique, elle est triple. Il y a une altérité à l'autre, qu'on met très souvent en scène. On veut montrer qu'on a rencontré les populations locales. Il y a une altérité au paysage, à la nourriture, mais il y a une altérité à soi. On est soi comme un autre, on se découvre autrement. Je reviens à la question de la famille. Souvent, en vacances, on va modifier des règles. On se couche plus tard, on autorise les enfants à pas se brosser les dents. Il y a un chapitre là dans le livre qui porte sur le camping. Et on voit bien que le camping, comme c'est un espace à la fois vaste et clos, on ne circule pas en voiture, les parents appréhendent ça comme un espace un peu moins dangereux. Les enfants recouvrent une certaine liberté par des métriques piétonnes des cyclistes. On leur confie un peu d'argent. Pour la première fois, ils vont aller acheter une baguette de pain. Alors, On pourrait s'en moquer tout ça en disant « ouais, d'accord, on n'est pas dans une prise de risque phénoménale », mais c'est très important ça, de découvrir ses parents autrement. Heureux, cool, détendu,
disponible,
voilà, pas à cran sur les horaires. Et puis les enfants aussi sont autres, ils peuvent se montrer plus responsables, ils peuvent découvrir autrement les choses. Donc oui, on se découvre soi comme un autre. Alors parfois c'est pas du tout agréable, hein. Il y a des voyages qui se passent mal à cause de ça d'ailleurs. Mais souvent c'est aussi ça qu'on rapporte de voyage, une autre façon de vivre. Hein. C'est pour ça qu'on ramène des souvenirs d'ailleurs.
Le choc du voyage raconté, bon, évidemment par Slendal, mais par exemple par des Japonais qui découvrent Paris et sont confrontés à trop grandes émotions esthétiques et parfois aussi des déceptions sur ce devenir étranger. Véronique Ovalde, alors moi j'étais partie sur l'autre, mais finalement se découvrir soi-même différent et dans ses rapports aussi, puisqu'on est un enfant ou un parent avec sa famille.
Oui, alors c'est intéressant ce que vous disiez là sur le fait que, en effet, en famille, on a tendance on voyage, c'est une bulle, j'ai l'impression que c'est un banc de poissons qui voyage. Et que du coup, on a quand même donc on est à la fois extrêmement protégé, enfin, c'est très insulaire en fait, hein, on est à la fois très protégé et très enfermé, mais voilà, on se trimballe avec le reste du banc de poissons. Et donc, on n'arrive pas toujours à aller vers l'étranger. Mais je reviens aussi sur l'idée qu'en fait, il y a quelque chose d'assez flatteur pour soi-même, pour l'ego, en fait, dans le voyage. Oui, avec le contentement qu'on a, en effet, de ramener, comme on disait, des souvenirs, de dire « j'y étais ». Et vous voyez très bien aussi tous ces gens qui ont les t-shirts Hard Rock Café, vous savez, qui écrivent le nom Istanbul ou je ne sais quoi, ou Groenland, enfin voilà. Donc il y a quand même quelque chose de « j'y étais, je l'ai fait ». Vous savez très bien, cette expression est merveilleuse qui dit « j'ai fait le Caire ». Et donc il y a quelque chose comme ça qui flatte l'ego, qui moi m'intéresse beaucoup. Moi qui suis voyageuse par, j'allais dire par nécessité, c'est bizarre de dire ça, mais c'est-à-dire qu'en fait au départ j'ai un côté, en effet, comme je vous disais, une espèce de voyageuse immobile, casanière, qui reste, qui considère qu'en effet on n'écrit jamais aussi bien que assis derrière son bureau et derrière une fenêtre, ou plutôt devant un mur. Je crois que c'était Baudelaire qui disait qu'on écrit mieux devant un mur que devant une fenêtre, d'ailleurs, et que simplement j'ai eu la chance d'être très souvent sollicité pour voyager beaucoup, et à chaque fois, évidemment, comme je disais tout à l'heure, je revenais avec des souvenirs de voyage, et ça c'était merveilleux parce que je me sentais complètement enrichie. Donc il y a quelque chose, en effet, dans ce qu'on voit de l'autre, et que l'autre, j'ai l'impression que parfois on pompe quelque chose de l'autre, même si on lui apporte quelque chose et qu'on a des belles rencontres. Mais vous savez aussi ces rencontres de voyage qui sont merveilleuses. Vous rencontrez des gens, on est à la vie à la mort pendant 15 jours, pendant 3 semaines ou pendant 2 jours, et puis après on revient, on se jure qu'on va se revoir. Enfin, on a tous vécu ce genre de moment, non? Il n'y a pas que moi, hein, j'espère.
on vous laisse parler.
Et après, on revient, et puis on revient dans notre routine, le système dans lequel nous sommes tous. Voilà, ça s'éloigne, et ça reste en effet des souvenirs, ce qui est quand même très important puisqu'on est la somme de nos propres histoires, de nos propres souvenirs, finalement. Donc ça reste là, et c'est ça, moi, qui m'intéresse beaucoup. C'est à quel moment, en fait, je deviens autre moi-même grâce à cette confrontation. C'est ça qui m'a intéressée dans le voyage, mais c'est pour ça que j'aime le après le voyage, on va dire. Mais ça me rappelle quelque chose. Je me souviens d'un bateau qui partait au moment des cités utopiques, enfin, qu'on voulait construire au tournant du siècle dernier. Un bateau qui partait pour le Maroc pour construire une cité utopique, qui s'appelait la Terre Promise, le bateau. Et en fait, on se rendait compte que finalement, la Terre Promise, c'était pas évidemment le bout du voyage. Qu'en fait, c'était le voyage lui-même. C'est évidemment le fait de le transport lui-même. Parce que finalement, dans le voyage, il y a aussi toute cette affaire-là. Il y a pas simplement la destination où on se rend, mais il y a évidemment toute le fait de changer d'endroit. Moi, par contre, j'ai une passion pour les aéroports. Je trouve que c'est un endroit extraordinaire. Je trouve que c'est un endroit fascinant parce qu'on est nulle part. On est dans aucun endroit vraiment précis. J'ai l'impression que les gens changent complètement de comportement. Il y a plus d'horaire, il y a plus rien. Les gens sont souvent très calmes, sauf ceux qui sont en train de louper leur avion. Mais donc il y a quelque chose d'assez étrange. Moi, il y a une étrangeté justement dans les aéroports. Je crois que je pourrais simplement voyager dans des aéroports.
Voyageuse immobile de préférence, on l'a compris. C'est vrai que ça permet d'aller moins loin si on reste juste à l'aéroport. On va revenir sur la dimension familiale du voyage et et tout le projet familial autour des vacances pour ses enfants. C'est Yvan Jablonka qui le raconte très bien au micro de Sophie Bobert.
Mes deux parents sont nés juifs à Paris au début des années 40, c'est-à-dire sous l'occupation. Autant dire que mes deux parents sont des survivants de la Shoah, parce qu'ils n'auraient pas dû vivre. Et donc, leur vie, leur enfance, le fait qu'ils ont grandi, tout cela, je le vois comme un acte de résistance. Voilà, pour eux, vivre, faire des études, se marier, avoir des enfants et les élever, ça a été un acte de résistance, une espèce de victoire contre le malheur et contre les forces de mort qui auraient dû les emporter. Et dans mon enfance, de manière inséparable, il y a le camping-car, c'est-à-dire une espèce de maison sur roues. Pour moi, c'était un petit peu un Nautilus, non pas dans la mer, mais sur les routes. Et ça, c'est un des grands cadeaux que mes parents m'ont fait. On a sillonné tout le bassin méditerranéen, de l'Espagne jusqu'à la Grèce et du Maroc jusqu'en Turquie. Donc, le fait que mes parents aient survécu, ça nous poussait, nous, à prendre conscience de la chance qu'on avait, et donc le bonheur était pour moi nécessairement compliqué. Il y avait presque une obligation d'être heureux par respect de ce que les nôtres avaient vécu et subi. Ce qui fait que dans mon bonheur, il y avait une forme d'angoisse. Dans mes souvenirs de plage et de Méditerranée, il y avait sans doute l'ombre de la Shoah. Et c'est pour ça que mon bonheur en camping-car a quelque chose de profondément ambivalent. C'est le moment où j'ai été sans doute le plus libre et le plus heureux dans mon enfance. Et en même temps, avais-je vraiment le choix ? Je crois que je n'avais pas le choix, je devais être heureux, parce que objectivement c'était des vacances féeriques, fantastiques, mais aussi parce que mes parents nous faisaient ce cadeau et qu'il fallait être en quelque sorte à la hauteur de cette chance.
Et puis socialement, arrivé au collège, il devient compliqué à porter ce camping-car, c'est-à-dire que non seulement d'un point de vue intime, il est symptomatique d'une carence, d'une béance, d'une tragédie, d'une injonction au bonheur due à cette tragédie, mais aussi socialement, il vous décale.
Ça me décalait, mes camarades partaient en vacances, par exemple au Club Med ou dans un mât provençal ou dans une maison de famille en Bretagne ou en Bourgogne. Et ça, c'était l'enracinement et nous, c'était tout le contraire. Et en même temps, ça m'a appris aussi que tout le monde n'a pas les mêmes types de vacances, tout le monde n'a pas les mêmes goûts pour le vêtement, la mode, l'appartement, les manières de vivre. Bref, ça s'appelle découvrir la sociologie à l'âge de 12 ans. Et j'en ai gardé ce plaisir de l'écriture qui est associé pour moi à des choses extrêmement gaies. Et même,
oui, car vous écriviez dans ce camping-car, vous teniez un journal.
Je lisais, j'écrivais. Je me baignais, je mangeais des bonnes choses, je voyais des paysage fantastique, et je crois que en quelques mots, je viens de décrire la vie idéale.
C'est très sensuel, en fait.
C'était des vacances extrêmement sensuelles parce que on découvrait, par exemple, des animaux sauvages, ici des écrevisses, là une murène, là encore des tortues, et puis je caressais le marbre des ruines antiques, et puis je mangeais des bonnes choses. J'ai mangé à l'âge de 12 ans des figues de Barbarie et des souvlaki, et aussi des loukoums. Et ça, c'est des choses... Ça fait partie de l'éducation au sens large, mais l'éducation dans son aspect le plus solaire, le plus fabuleux.
Vous y pensiez à ce camping-car durant l'année ?
Non, j'y pensais pas, parce que il y avait vraiment deux moments pour moi dans l'année. Il y avait ce que j'appelais l'année tout court, c'est-à-dire l'année scolaire, et ça, c'était un peu plus gris. Il y avait comme un devoir scolaire, un devoir mémoriel aussi peut-être, qui faisait que j'étais là pour travailler, pour obéir à la règle, parce que j'étais un enfant sage et sans doute trop obéissant. Et puis il y avait l'été. Et là, l'été s'était scandé par le mois de juillet dans un camping généralement naturiste, puis le mois d'août en camping-car, dans un pays qu'on allait découvrir avec des amis. Et ça, c'était le jardin d'Éden qui renaissait chaque année. des moments extrêmement heureux, intenses, avec une espèce de bande d'enfants qui était comme une république d'enfants, la même république d'enfants que mon père avait connue dans les orphelinats juifs communistes des années 50, cette enfance qu'il avait vécue et qu'il voulait pour nous. Et ça, c'était extraordinaire. J'avais l'impression que c'était comme le jardin d'Éden qui renaissait chaque année. Je sentais à l'époque que mes vacances étaient exceptionnelles et je sentais aussi la chance qui était la mienne. Et donc, j'étais heureux au carré. J'étais heureux parce que je devais l'être, mais j'étais heureux parce que, objectivement, ces vacances étaient géniales.
Alors, cette vie idéale proposée par les parents, c'est plus que des vacances, c'est la vie. Emmanuel Pevel, vous qui avez dirigé cet ouvrage « L'éducation au voyage », à quoi ça vous a fait penser ?
Ben moi, j'y vois toute une géographie de son camping-car. Son père a appris à faire du camping-car à Palo Alto quand il y avait été travailler. Donc, il y a déjà eu une circulation de savoir à ce moment-là. Il a ramené un vieux camping-car brinque-ballant et ensuite, ils ont surtout fait du camping-car autour de la Méditerranée sur des sites antiques parce que sa mère était prof, alors je ne sais plus si c'est de lettres classiques ou d'histoire, pardonnez-moi. Donc il y a toute une géographie de, cette, de ce camping-car et puis ça s'inscrit aussi dans des temporalités. L'enfance a été un moment qu'il a investi comme très bon, idéalisé. Après il dit un petit peu plus tard qu'à l'adolescence la promiscuité commençait un peu à lui peser et puis il y est revenu quand il a eu des copines parce que dans le camping-car on peut recréer pour pas très cher une intimité avec ses copines. Donc il y a une géographie de ce camping-car dans son roman qui est passionnant, quoi, de l'échelle de la grande à la petite échelle, quoi, j'allais dire. Ouais.
La référence aux échelles, puisque vous êtes géographe, Emmanuel Pevel. Merci beaucoup.
Merci
Véronique Ovalde. Personne n'a peur des gens qui sourient. Merci. C'est votre dernier livre. Merci Thibaut Vian. Vous avez publié L'éducation, je le rappelle, L'éducation par le voyage chez L'Harmattan. Je vais faire plein de merci. Merci à Jacques Hézubert qui est à la prise de son aujourd'hui. Merci pour le travail, pour la présence, pour l'intelligence, merci pour la sagacité et merci pour les blagues, Avril Ventura. Merci pour les idées, pour les montages parfaits, merci pour les chansons. Bref, merci Philippe Baudouin. On embrasse la merveilleuse Somanina au passage, puisqu'elle a réalisé aussi une grande partie de nos êtres et savoirs de cette année.